Bon matin à tous. C'est une joie pour Cathy et moi d'être parmi vous pour une deuxième année consécutive. L'an dernier, je vous ai apporté un message sur le pardon. Et ce matin, on va parler de la foi. Et plus spécifiquement, une foi vivante et agissante. Si on pourrait. Oui, exactement. On arrive directement de Terrebonne Beach, où il fait déjà été. Non, c'est pas vrai. On a passé quelques semaines en Floride pour se reposer et se préparer pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, très remplis de ministères. Une foi vivante et agissante. Dans cette étude, nous allons examiner ensemble la vie d'un personnage biblique qui m'a toujours fasciné et qui me fascine encore chaque fois que je lis son histoire dans les évangiles. Qui est-ce? C'est une femme qui est sans nom dans les Écritures, mais qu'on connaît comme la femme qui saignait. The Bleeding Woman. Wow! Quel surnom! Nous avons The Great One, Wayne Gretzky. The King, Elvis Presley. La femme de fer, Margaret Thatcher, et la femme qui saignait. Wow! À travers l'étude de sa vie, nous allons apprendre des leçons très importantes et pratiques pour notre relation avec Dieu, pour notre marche chrétienne quotidienne, pour notre vie de foi. C'est ma prière et mon objectif qu'à la fin de cette étude ensemble, nous allons tous avoir une meilleure compréhension de ce qui est la foi et que deuxièmement, chacun de nous, nous allons acquérir des notions très claires de comment vivre chaque jour par la foi en attendant notre promotion d'aller au ciel et vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Maintenant, juste avant de lire notre texte biblique ensemble ce matin, je dois mentionner quelques points pour nous aider au début de cette étude à comprendre ce qui est et ce qui n'est pas la foi. Il y a dans notre société moderne et dans la langue française beaucoup de mots qui sont terriblement mal compris et mal utilisés et qui sont donc employé avec une grande confusion. Un exemple classique de cette confusion dans la communication, c'est le mot « amour », n'est-ce pas? À mon humble avis, il n'existe aucun autre mot dans la langue française qui est utilisé à profusion, à toutes les sauces, dans tous les contextes, sans compréhension de ce que c'est véritablement. Je t'aime plus, je pense que je t'aimerai ici, je t'aimerai parce que j'aime Dieu, j'aime ma femme, j'aime mon chien, j'aime le chocolat, etc. Très souvent, l'amour est décrit comme un sentiment, une palpitation qui peut facilement disparaître. Mais aucune de ces utilisations s'approche de la notion biblique de l'amour, un engagement de ma volonté à faire ce qui est meilleur pour toi, inconditionnellement. Un deuxième exemple, c'est le mot Dieu. Si vous demandez à 30 personnes en centre-ville de Gatineau de définir le mot Dieu, les chances sont bonnes que vous allez obtenir 30 définitions différentes. Beaucoup de confusion. Malheureusement, un troisième exemple, c'est le mot central de notre étude ce matin, la foi. Pour beaucoup de personnes, la foi est quelque chose de mystique ou magique. Ouh, la foi. Quand en réalité, c'est pas ça du tout. Les chrétiens évangéliques, on rajoute à la confusion qui entoure ce mot quand on dit que la confiance et la foi sont des synonymes purs. Et ils ne le sont pas. Ils sont des cousins de la même famille de connotation, mais ils ne sont pas exactement la même chose. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous êtes au Centre Bell à Montréal pour voir un match des Canadiens, OK? Maintenant, tous les fans des Sénateurs, lancez pas des roches, s'il vous plaît, là, gardez ça dans vos poches, OK? Et là, vous êtes au Centre Bell Et en troisième période, avec 4 minutes à jouer, les Canadiens perdent 7-1. Là, les fans des Sénateurs sont contents, là, mais c'est pas quelque chose qui arrive souvent ce temps-ci. Mais les Canadiens perdent 7-1 avec 4 minutes à jouer. Et toi, tu dis à ton chum, mais on va partir maintenant pour éviter le trafic en sortant du parking. De toute façon, cette game est déjà finie. Et ton chum, il te répond, quoi? Tu n'as pas de foi qu'ils vont revenir? Et toi, tu dis, écoute bien, là, jamais dans les plus de 100 ans de l'histoire du hockey, une équipe a marqué 6 buts en moins de 4 minutes. Malgré le fait qu'ils en ont manqué plusieurs contre les Sénateurs dernièrement, là. Mais ça, c'était juste 4-1. OK? Jamais 6 buts en moins de 4 minutes. Tu dis, la seule façon qu'ils pourraient gagner ce match, c'est si tous les joueurs de l'autre équipe tombent morts à l'instant même. Et là, ton chum te répond, tu vois, ça pourrait arriver, ça. Et là, on embarque avec des speeches sur l'optimisme, la pensée positive, la confiance. Et aucune de ces choses-là sont la foi. On peut avaler des déclarations stupides concernant la foi quand il s'agit du hockey. Mais quand ça devient « tu n'es pas guéri parce que tu manques de foi », »,« tu n'as pas obtenu cet emploi parce que tu en manques de foi », ça devient pas mal blessant. L'école de pensée de l'humanisme enseigne que si tu as la foi en toi-même, dans l'être humain, tu peux accomplir n'importe quoi. Et c'est un gros mensonge. Si j'ai la foi en moi-même ce matin, je ne peux pas voler jusqu'en Floride. Je ne peux pas soulever un poids de 800 livres. Je ne peux pas m'auto-guérir d'un cancer. Dieu nous enseigne dans sa parole que le facteur le plus important concernant la foi, ce n'est pas sa grandeur ni sa quantité, mais c'est l'objet de ma foi. En quoi ou en qui est-ce que je place ma foi? Si quelqu'un te demande d'embarquer dans cet avion ce matin, par la foi. Ça, c'est de la stupidité et la folie. Ce n'est pas la foi. OK? Cité avec précision en Matthieu 17, 20, Jésus nous dit, « Si tu as de la foi, grosse comme un grain de moutarde, et tu places cette foi-là en Dieu, le Tout-Puissant, tu pourrais déplacer les montagnes. Accomplir des grands exploits. Et si tu es comme moi, quand tu lis ces paroles-là, tu veux dire en réponse à Jésus, oui, mais comment faire? Comment? C'est quoi la foi au juste? Comment puis-je vivre quotidiennement par la foi? C'est à ces questions-là que nous allons répondre dans cette étude ensemble ce matin. Et c'est archi important qu'on retrouve des bonnes réponses à ces questions, car le mot foi revient à 270 reprises dans la parole de Dieu. Assez souvent, n'est-ce pas? Et parmi ces 270 versets, on retrouve des passages très importants comme Romains 1, 17, le juste vivra par la foi. 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, avec toute cette information comme arrière-plan, lisons notre texte biblique ensemble et ensuite nous allons découvrir deux choses ce matin. Numéro 1, qui est cette femme? Et numéro 2, c'est quoi la foi selon la Bible? Tournez avec moi dans vos Bibles à Marc chapitre 5. Je l'ai dit l'an dernier quand je suis venu et je vais le répéter ce matin. Amenez vos Bibles avec vous à l'église dimanche matin, s'il vous plaît. Ne vous fiez pas au PowerPoint. Il peut y avoir une panne d'électricité, il peut y avoir une erreur dans les PowerPoint. Mettez votre nez dans la parole de Dieu. Je dis ça partout où je vais dans la province de Québec. Et dimanche passé, j'étais à l'église, non pas comme prédicateur, mais dans le full. Et la prédication commence, paf! La PowerPoint tombe en panne. Je dis, yes, sir. On dirait que tout le monde était paralysé. Pendant 10 minutes, tout le monde s'est regardé, qu'est-ce qu'on fait? OK? Ouvrez vos Bibles et suivez avec moi dans Marc chapitre 5, s'il vous plaît. Or, verset 25, or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle se disait, « Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Elle vint dans la foule par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Maître, tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors Jésus lui dit, « Ma fille, prends courage, car ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Ne manquez pas, chers amis, que dans la conclusion de ce passage, Jésus lui-même identifie clairement pour nous le facteur qui a changé la situation de vie de cette femme. Au verset 34, il dit, « Ta foi t'a sauvée. » Qui est cette femme? Qui est cette femme? Si vous êtes le genre de personne à venir à l'église et à jamais prendre les notes, ce matin devrait être votre exception. OK? Prenez quelques notes, des grandes lignes. C'est une étude qui pourrait changer des vies ici ce matin. Si vous n'avez pas de papier, vous pouvez écrire à la dernière page de votre Bible à l'intérieur. OK? Je vous donne permission. Grand-maman va vous pardonner, OK? Dites-lui que Jerry a dit que tu peux écrire dans ta Bible, OK? Voici des renseignements importants concernant cette femme. Sans nom, sans visage, mais quel exemple de foi pour nous. Quand j'étais un nouveau chrétien, je l'imaginais un peu comme ceci. Plus tard, quelques années plus tard, je l'imaginais un peu comme cela. Est-ce que c'est important d'avoir une image dans notre tête quand on lit les Écritures? Pas nécessairement, mais moi je rentre dans les histoires. J'ai une image dans ma tête. C'est pas important d'avoir une image précise, mais par contre, c'est important de réaliser que cette femme ne ressemblait pas à ceci. OK? Autrement dit, elle était une personne du peuple, à bien des niveaux très ordinaire. Madame tout le monde, un nobody. Elle n'était pas une théologienne, elle n'avait aucune qualité spéciale. Vous voyez, dans la Bible, nous rencontrons des personnes extraordinaires, comme Daniel. Éduqué et avec une discipline de fer, comme Salomon, imbibé de sagesse et extrêmement riche, comme Samson, musclé à rendre Schwarzenegger jaloux, comme Jean le Baptiste, zélé, consacré, avec une diète assez spéciale, merci. Et nous rencontrons également des gens très, très, très ordinaires, comme cette femme. Mes frères et sœurs, si vous ne comprenez pas correctement le désespoir énorme qui résidait dans l'âme de cette femme, vous ne pouvez pas saisir le message que Dieu a pour nous dans cette histoire biblique. Alors voici 6 renseignements importants que vous devez saisir pour savoir qui est cette femme. Vous êtes prêts? Numéro 1. Elle était tout d'abord une femme. Non, suivez-moi là, c'est important là. Je vais vous transporter 2000 ans en arrière et je vais vous déposer en Israël. Vous êtes prêts? Les femmes en Israël à l'époque de Jésus étaient sans pouvoir, sans possibilité, sans accès à plein de choses, sans valeur. Sans exagérer la situation, et selon les écrits de plusieurs rabbins de l'époque, l'échelle de valeur qui résidait dans la société était Dieu, ensuite les hommes, et quand je dis les hommes, je veux pas dire les êtres humains, je veux dire les mâles, les hommes, ensuite les animaux, ensuite les femmes. Et Jésus a tout fait pour renverser cette inégalité et rehausser la place de la femme dans cette société. Jésus s'est entretenu avec la femme samaritaine auprès du puits. Les disciples ont dit, « Hein, tu parles avec une femme? » Jésus a démontré de la tendresse à la femme qui était prise en adultère, en Jean chapitre 8. Des femmes étaient parmi le groupe de disciples qui suivait Jésus régulièrement. Jésus a laissé une femme pleurer sur ses pieds malgré des regards de dégoût de son hôte, Simon. Jésus a parlé avec des femmes et s'intéressé à des femmes régulièrement. Et plus tard dans le Nouveau Testament, en Galates 3:28, c'est écrit, « Il y a maintenant ni plus homme ni plus femme en Christ. » Alors, la première chose à saisir concernant cette femme, c'est qu'elle était culturellement rabaissée. Deuxièmement, elle était une femme malade. Et pas avec n'importe quelle maladie ou condition non plus. Elle était en hémorragie. Elle subissait des pertes de sang quasi constantes pendant 12 ans. Moi, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel à l'âge de 16 ans. OK? Les premières fois que je lisais l'histoire de cette femme, je me suis jamais arrêté une seule fois pour me demander par où est-ce que ce sang sortait. Est-ce que c'était par son nez, par l'ombris, par son petit orteil? Je sais pas. Mais je vous annonce ce matin, après 33 ans de mariage et des recherches très profondes, que j'ai réalisé à un moment donné que ce sang sortait par son vagin. Elle était continuellement menstruée ou indisposée pour être politically correct. Je suis pas médecin. Mais imaginez pour 5 secondes tous les effets sur son état physique. Elle était sûrement très, très affaiblie, anémique et en perte de fer. Des douleurs, des crampes, des infections. Est-ce que j'entends « Amen » à ça, mes sœurs? Oui, hein? C'est bien plus qu'un peu d'inconfort. C'est très, très, très souffrant. La santé de cette femme l'a placée dans une position où elle était très sévèrement incommodée. Donc, deuxièmement, elle était physiquement souffrante. Troisièmement, elle était une femme remplie de honte. Où est-ce que tu vois ça dans le texte, Jerry? Mais c'est pas dans le texte. Mais avec une connaissance globale des Écritures et aussi des traditions juives, On peut conclure avec certitude, selon Lévitique, chapitre 15, verset 19 et suivant, que sa condition était considérée comme une maladie de contamination. Et cela la rendait continuellement impure aux yeux des autres. Petit Nord-Américain que nous sommes, on dit, impure. C'est pas si pire, elle doit prendre beaucoup de bain. Non. Cet aspect légaliste de la religion contre laquelle Jésus est venu lutter a détruit sa vie. Partout où elle est, partout où elle se déplaçait, elle devait crier « impur, impur, impur » comme les lépreux pour que les gens puissent ôter de son chemin puis personne rentre en contact avec elle. Car toute personne qui l'a touchée et toute personne qu'elle a touchée devenait impure également. En plus, tout objet qu'elle touchait devenait impur. Son lit, sa chaise, sa cuillère étaient tout impurs. Quelle condition sociale cauchemardesque! Totalement rejetée par tout le monde. Mise de côté par tous. Sa liberté de déplacement est complètement restreinte. Personne ne voulait être dans sa présence. Tout le monde le fuyait. Elle vivait un ostracisme total. Ça, les amis, c'est de la honte. C'est de la honte. L'ensemble de tout cela la rendait un moins que rien. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter tout cela? Rien! Est-ce qu'elle était responsable pour sa condition? Non! Est-ce qu'elle avait choisi? Non! Est-ce que c'était sa faute? Non! Et pourtant, elle était socialement rejetée. Quatrièmement, elle était une femme pauvre. Le texte nous dit très clairement au verset 26, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait à essayer de trouver un remède sans succès. Ses ressources financières ont été flambées. Compte de banque à zéro. En québécois, elle était cassée, fauchée. Chaque cure, chaque remède, pratique, idée, potion, herbe, elle avait dépensé sur tout cela pendant 12 ans sans succès. Savez-vous c'est quoi un charlatan? C'est pas la ville capitale de l'île du Prince-Édouard, ça c'est Charlottetown, OK? Il y avait des charlatans à l'époque. Voici quelques-uns des remèdes que cette femme a essayé selon mes recherches. Transporter des cendres d'un bœuf dans un sac en toile autour de la taille pendant 30 jours. Porter un collier de maïs autour du cou pendant 60 jours. Étaler sur sa peau du fumier chaque nuit, pas de durée de temps mentionnée. Elle avait tout essayé, sans succès, et comme résultat, elle était financièrement vidée. Cinquièmement, elle était une femme exploitée. Notre texte nous dit encore au verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Pensez à une grippe qui a envahi ton corps pendant 6, 7, 8 jours. Et comment tu te sentais fatigué, vidé? Et maintenant, pensez à cette femme. 12 ans de souffrance. En québécois, elle était certainement au bout de son rouleau. Elle était émotionnellement épuisée. Alors, culturellement rabaissée, physiquement souffrante, socialement rejetée, financièrement vidée et émotionnellement épuisée. Pensez-vous qu'elle était peut-être un petit peu découragée et déprimée? Les amis, le mot découragement ne vient même pas proche de décrire l'état d'âme de cette pauvre femme. Les cinq premières conditions, toutes mises ensemble, nous donnent le sixième. C'était une femme complètement désespérée. Désespérée, sans espoir. Désespérée, pas d'espoir. Je veux pas jouer au psychologue ce matin, mais savez-vous ce qui nous fait avancer, continuer dans cette vie? L'espoir. L'espoir d'apprendre. L'espoir de graduer. L'espoir de décrocher un emploi, de rencontrer quelqu'un, de se marier, d'avoir un enfant, de devenir grand-parent. Et à l'opposé, savez-vous la raison ultime qu'une personne se suicide? Le désespoir. Cette pauvre femme qui saignait était totalement désespérée. Et au milieu de cette situation de vie absolument noire, terrible et affreuse, cette femme abattue, avec un présent gravement hypothéqué et un futur sans espoir, cette femme n'a pas choisi le suicide. Elle n'a pas choisi l'alcool. Elle n'a pas choisi les drogues ou la pornographie ou un autre vice. Cette femme a réussi à dénouer une impasse dans laquelle elle se trouvait depuis des années. Elle a réussi à changer sa vie et à renverser son sort. Et savez-vous comment? En activant sa foi. En mettant en pratique la foi. Par une démarche de foi. La foi change des choses. La foi renverse des situations. La foi rétablit des vies. Au mot de Jésus, sa foi l'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Remarquez bien, francophones que nous sommes, ne manquez pas le bijou dans ce texte-là. Au verset 36, Jésus dit, « Ta foi t'a sauvé. » Et le mot « sauvé » qui est là, c'est le mot en grec « sozo ». Ça vous aide beaucoup ce matin, hein, Pantette? « Sozo » veut dire beaucoup plus qu'une guérison physique. « Sozo » porte le sens de restaurer, rétablir, rebâtir, ramener un bon état. La foi de cette dame a procuré pour elle une amélioration physique, oui, mais aussi relationnelle, financière, émotionnelle. Jésus n'a pas dit à cette femme, ta foi t'a guéri. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Levez votre main ce matin si vous avez déjà souffert un peu dans votre vie. Maintenant, levez votre main si vous êtes d'accord que la foi de cette femme est un modèle pour nous. Parfait. Pouvons-nous terminer notre étude ici ce matin? Non? Car nous n'avons même pas encore abordé la question de c'est quoi la foi? Comment pouvons-nous activer le mécanisme de la foi? Comment mettre en pratique notre foi? Comment vivre par la foi à Gatineau en 2014? Voilà les questions importantes dans cette étude. Je veux, dans cette dernière section de l'étude, vous expliquer l'aspect pratico-pratique de la foi. Et en même temps, démystifier cet élément tellement important de la vie chrétienne. Et vous montrer que vivre par la foi, c'est pas un saut dans le vide avec notre cerveau en neutre, comme les non-chrétiens pensent, mais c'est un style de vie très sain. La foi n'est pas quelque chose d'abstrait, de flou et de mystérieux. La foi est plutôt quelque chose de pratique, d'efficace et de puissant. La foi n'est pas facultative et optionnelle. La foi est vitale et essentielle. La foi n'est pas quelque chose de statique et stagnant. C'est quelque chose de dynamique et actif. Vivre par la foi, c'est pas une existence faible, folie, aléatoire, parce qu'on se sent petit et peureux. Vivre par la foi, c'est d'avoir l'intelligence de reconnaître que c'est l'outil que Dieu, le Créateur de cette vie, le Tout-Puissant, nous commande d'utiliser pour affronter les événements de cette vie sur une base quotidienne en s'appuyant sur lui. J'espère que vous allez voir dans les minutes qui suivent, lorsque je vous décris la démarche en plusieurs étapes de cette femme et le geste qu'elle a posé, que la Bible nous démontre clairement c'est quoi une démonstration concrète de la foi. Voici sept caractéristiques d'une foi vivante et agissante. Tout d'abord, une foi vivante et agissante perçoit des occasions, des opportunités que Dieu nous donne. Au verset 27, nous lisons dans notre texte, « Ayant entendu parler de Jésus ». Ayant entendu parler de Jésus. Autrement dit, les nouvelles concernant Jésus sont venues à l'oreille de cette femme. Quelles nouvelles? Quelles nouvelles? Les nouvelles de ses guérisons? Est-ce que tu sais qu'il a guéri un aveugle à Jéricho? Il a guéri un paralytique? Ben oui, est-ce que tu sais? Ces nouvelles-là sont venues à ses oreilles. Et cela a fait naître en elle un espoir. Le nom de Jésus lui a fourni une opportunité. Elle avait maintenant une vision de comment, peut-être, sa condition de vie pourrait être changée. Chers amis, des milliards de personnes sur cette planète ont entendu parler de Jésus, sans toutefois rien réveillé en eux. Rien changé dans leur vie. Même au contraire, pour plusieurs parmi eux, le nom de Jésus est devenu un blasphème sur leurs lèvres quand ils se cognent avec un marteau ou quand ils échappent un ballon de football. Mais pas cette femme. Le fait d'entendre le nom de Jésus a été une occasion d'activer sa foi. Trop souvent dans cette vie, quand un obstacle, une épreuve, une difficulté, un défi se dresse devant nous, on se retourne sur nous-mêmes. On se confie en nous-mêmes. Désastre! Désastre! Malgré tout ce que l'humanisme veut nous faire avaler avec son propagande, la réalité est que notre potentiel, nos ressources sont extrêmement limitées. Jésus est El Shaddai, le Tout-Puissant. Alors, vivre par la foi, c'est de garder nos yeux fixés sur Dieu et sa puissance. Il est notre force et la solution pour nos problèmes. Deuxièmement, une foi vivante et agissante, pense en termes de possibilités. Au verset 28, c'est marqué, car elle se disait, si seulement je peux toucher ses vêtements. Elle se disait, si seulement je peux toucher ses vêtements. Elle se parlait, cette femme. Elle parlait en dedans d'elle-même. Dans sa tête, elle voyait une possibilité, puis elle se disait, si seulement je peux toucher ses vêtements. Est-ce que tu te parles, toi? Mais oui, tu te parles. Tout le monde se parle. La journée est longue. C'est ça vivre. C'est ça penser. C'est d'avoir un dialogue avec soi-même. Parfois, on se critique. Parfois, on se doute. Parfois, on s'encourage. Mais beaucoup de gens dans cette vie ont rejeté Dieu, se disant, Dieu n'a rien fait pour moi. Pendant qu'ils sont assis sur leur derrière à rien faire dans la vie. À l'opposé, des adeptes de l'humanisme, merci. C'est gratuit chez Zellers. Des nouveaux lèvres. Des adeptes de l'humanisme crient « Tout est possible dans la vie ». Est-ce que c'est vrai que tout est possible dans la vie? Est-ce que c'est vrai? Oui, puis non. Oui, puis non. La Bible dit deux fois dans ses pages que tout est possible. Savez-vous exactement ce que ça dit? Ça dit en Luc, chapitre 1, 37, « Tout est possible à Dieu ». En effet, ce que ça dit réellement, c'est « Rien n'est impossible à Dieu », qui veut dire « Tout est possible à Dieu ». Et dans Marc 9, 23, ça dit « Tout est possible à celui qui croit en Dieu ». L'humanisme dit « Je peux faire toutes choses ». Et la Bible dit « Je peux faire toutes choses par celui qui me fortifie, Jésus et son Saint-Esprit. » Philippiens 4, 13. Quand les difficultés se présentent à nous dans la vie, et maisons que nous avons des difficultés dans cette vie, même en étant chrétiens, nous devons focusser ni sur le problème, ni sur nous-mêmes. Car vivre par la foi, c'est de penser en termes de solutions possibles avec notre focus sur Dieu. Troisièmement, une foi vivante et agissante planifie, dresse un plan, une stratégie. Cette femme n'a pas arrêté sa démarche au niveau de penser, d'aspirer, de rêver. Elle n'a pas non plus lâché rapidement son rêve. Savez-vous que beaucoup, beaucoup de personnes, à sa place, dans la même situation qu'elle, auraient dit, « Si seulement je peux toucher ses vêtements. » Mais non, t'es folle toi, t'es un pur imbécile. Sois pas rêveuse, sois réaliste, ça arrivera jamais. Mais pas notre cher ami qui saignait. Regardez-la assise à sa table de cuisine. Et en entendu parler de Jésus, elle s'est dit à elle-même, si seulement je peux toucher le bord de ses vêtements, comment je pourrais le faire? Comment je pourrais me rendre auprès de Jésus? Comment je pourrais me retrouver là où il sera? Elle commence à planifier comment ça pourrait arriver. Les amis, comprenez dans cette histoire, OK, qu'elle n'a pas été guérie parce qu'elle a bumpé Jésus accidentellement dans la troisième rangée du supermarché de Capernaum, OK? C'est pas comme ça que ça s'est fait! Elle a planifié! « Ah, j'ai besoin des cornichons. »« Oh, regarde, je suis guéri. »« Non! Non! » Elle a dressé un plan, une stratégie. « Thinking! » Vivre par la foi, ce n'est pas de mettre son cerveau sur une tablette. J'étais pasteur, aumônier, conseiller matrimonial pendant les 34 dernières années de ma vie. C'est des postes importants, hein? C'est des postes où je donne beaucoup de conseils aux gens. Et je suis absolument stupéfié de constater le nombre de fois que des gens m'ont dit, « Pasteur Jerry, je veux être missionnaire. Je veux partir une compagnie. Je veux me marier. » Je veux implanter une église. Et je dis, hey, c'est bon ça, c'est parfait. As-tu un plan? Puis ils me répondent, non. Je vais faire ça par la foi. Ah! C'est de la chenoute, ça! Le livre des Proverbes appelle ça la folie. C'est de la folie. C'est pas la foi biblique, ça. C'est pas la foi que Dieu nous demande. C'est pas la foi que nous voyons dans la vie d'Abraham, de Moïse, de Daniel, d'Esther, dans les disciples au jour de Pentecôte, dans la vie de l'apôtre Paul. Vivre par la foi, c'est d'élaborer un plan qui va permettre à mettre ma foi en Dieu en action de façon concrète et pratique, soumise à sa direction. Quatrièmement, une foi vivante et agissante poursuit un but qui est précis et défini. Au verset 28b, elle a dit, « Si je touche ses vêtements, je serai guéri. » Son but, son objectif de cette femme, ce n'était pas de se frayer un chemin jusqu'à Jésus. Son but, ce n'était pas de toucher les vêtements de Jésus. Son but, ce n'était pas de toucher Jésus. Son but était d'être guéri. C'était ça son but. Des fois dans la vie, nous sommes déjoués par nous-mêmes parce que nos objectifs sont flous, vagues, confus, aucune espèce d'idée. Je me rappelle de l'exemple d'un petit garçon qui était à côté d'une machine de Pepsi-Cola. Puis, la langue sortie, il voulait avoir une Pepsi, mais il n'avait pas d'argent. Il est resté là. Non, les messieurs arrivent, là, ils achètent un Pepsi, ils se tournent vers le kid, puis ils disent, « Jeune homme, veux-tu avoir un Pepsi? » Puis ils répondent, « Ça me dérange pas. » Ça te dérange pas, ok, tu veux pas avoir de Pepsi, parfait, là, je m'en vais, là, ok? Pas clair, ça, ça me dérange pas. Dieu nous dit dans sa parole qu'on doit faire connaître à lui nos besoins. Jésus nous enseigne qu'on devrait demander à Dieu de nous donner notre pain quotidien. Jésus t'est impressionné par la veuve persistante, fatigante, qui harcelait le juge de lui rendre justice. Vivre par la foi, ce n'est pas d'agir sans but, ni direction, et de tout laisser au hasard. Il n'y a personne dans cette vie, personne qui est devenu médecin, professeur, chanteur, astronaute, athlète professionnel, missionnaire, par accident. Par hasard, sans but ni effort. J'ai toujours décrit cette vie ici-bas comme une pièce de théâtre où Dieu est le metteur en scène. C'est lui qui décide. Il a décidé que j'allais être un homme 5 pieds 9, peau blanche, maintenant bronzé un petit peu là, né à Winnipeg, fils de Paul et de Ellen. J'ai pas décidé ces choses-là. Dieu est le metteur en scène. Mais nous avons un rôle important à jouer. C'est de rentrer dans son plan. Vivre par la foi, c'est de poursuivre des buts précis dans ma vie qui vont glorifier Dieu. Comment vous trouvez ces 4 points-là? C'est superbe, hein? La démarche de foi de cette femme. Il y a même une belle progression là-dedans, là, hein? Perçoit, pense, planifie, poursuit. Wow, c'est génial. Hein? Savez-vous quoi? L'ensemble de tous ces 4 points-là n'a rien changé dans sa vie jusqu'à ce point-ci dans l'histoire. Savez-vous pourquoi? Parce que chacune de ces 4 étapes se sont passées où? Dans sa tête. Tout ça s'est passé dans sa tête, ça, jusqu'à date. Cinquièmement, une foi vivante et agissante passe à l'action. Les amis, j'étais pasteur longtemps. Beaucoup de personnes dans cette vie restent jamais dans leur vie entre les étapes 4 et 5. Paralysées, bouge pas. Une fois vivante et agissante, passe à l'action. Verset 27 dit, « Elle vint dans la foule par derrière et toucha le bord de son vêtement. » Elle n'a pas resté à la maison inactive, à se pitoyer sur son sort.
Jésus est là dans notre ville aujourd'hui. S'il pourrait seulement passer ici à la maison puis me demander de l'eau à boire. Peut-être il va se perdre dans le chemin pour Jéricho puis il va me demander des directions.
Non! Non! Elle a bougé! Elle a agi! De vivre par la foi, ce n'est pas de rester passif, inactif, statique, regarder vers le ciel avec des mains vides. L'épître de Jacques, chapitre 2, dit « La foi sans les œuvres, sans action, est morte! » La vraie foi de la Bible m'implique dans le processus, dans l'œuvre de Dieu, dans l'action. La vraie foi de la Bible m'appelle à bouger, à faire quelque chose. Vivre par la foi, c'est d'aller de l'avant, de rentrer activement dans le plan de Dieu pour ma vie, malgré mes peurs et mes craintes. Sixièmement, une foi vivante et agissante persévère malgré les obstacles. Au verset 31, on lit que les disciples dirent à Jésus, « Seigneur, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui t'a touché? » D'après vous, il y avait combien de personnes dans cette foule ce matin-là? Quelqu'un lance un chiffre. Combien? 2000. Des milliers. Aucune idée. La Bible ne le dit pas. Ce que je peux vous dire, c'est que Capernaum, c'était pas une grande ville. It was a sleepy village. A fishing village. C'était petit. Mais on sait qu'il y avait des foules qui suivaient Jésus. Combien de personnes étaient là? 300, 500, 800, 1000, 2000? On sait pas. Mais mettons qu'il y avait 1000 personnes. OK? C'est quand même du monde autour de Jésus, n'est-ce pas? Elle doit se rendre à lui. C'est un obstacle. Cette femme, même avec son plan génial, avait un obstacle majeur devant elle. Il y avait plein de monde. Comment je vais faire, moi qui suis impur, pour me rendre là? Comment elle s'est rendue là? Comment elle s'est rendue? Penses-tu qu'elle a traversé le... Excusez-moi, tasse-toi là. Mais non, elle est impure! Elle peut pas aller dans la foule! Impossible! Comment elle s'est rendue à Jésus? En rampant. Face par terre. Effrayée. Tremblante. Elle s'est rendue jusqu'à Jésus. Elle a mis de côté son impureté, ses nombreux découragements auprès des médecins, ses multiples souffrances et tout le reste. Elle a déterminé qu'elle n'allait pas rater cette occasion. Peut-être ce serait sa seule chance. Et à genoux, elle s'est frayé un chemin à Jésus, malgré les obstacles. Wow! Wow! Moïse, devant la mer Rouge, il a agi comment? Par la foi! Daniel, devant le décret du roi Nebuchadnezzar, il a agi comment? Par la foi. Les disciples, après le jour de Pentecôte, face à des persécutions, parlaient plus du nom de Jésus. Ah oui? Checkez bien ça. Comment ils ont agi? Par la foi. Par la foi. Ils ont tous persévéré par la foi et dans la foi. malgré des obstacles devant eux. En 2014, les amis, là, nous vivons dans une société là instantanée. Instantanée. Puis ça a infecté l'Église chrétienne, la foi chrétienne. Tout est instantané, là, OK? Four à micro-ondes, zap, 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 vite, Google, blablabla, vite! Tout est vite! Mais dans la vraie vie, tout n'est pas vite. Luc chapitre 1 ne dit pas que tout est facile. Luc chapitre 1 dit que tout est possible à Dieu. En réalité, cette vie est très souvent difficile. Dans les années 60 et 80, ici au Québec, on a prêché un évangile aux gens. On a dit, accepte Jésus et ta vie sera facile. Shame on us. Shame on us. Cette vie n'est pas facile. Dans la vraie vie, des gens deviennent malades, perdent l'emploi. Des enfants sont désobéissants et rebelles. Nous avons des malentendus avec notre époux, notre épouse. Cette vie n'est pas facile. Le paradis sera facile. Non, ce serait parfait. Quand les obstacles, les épreuves, les tempêtes se dressent devant nous, ne soyez pas déçus avec Dieu. Soyez déçus avec la fausse perception de la vie que nous avons créé pour nous-mêmes en tant que chrétiens, que tout va être facile, c'est pas vrai! Dieu n'a jamais dit ça! Vivre par la foi, c'est de persévérer avec Jésus, malgré les obstacles. Septièmement, dernière caractéristique d'une foi vivante et agissante, a produit des résultats. Verset 29 dit que son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 34 dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Vivre par la foi, c'est de savoir que Dieu agira en son temps. En Matthieu 17, 20, verset que j'ai cité plus tôt, ça dit, si tu as de la foi, grosse comme une graine de moutarde, tu déplaceras des montagnes. Nous lisons ce verset-là, et souvent nous n'avons aucune espèce d'idée de ce que ça veut dire dans la vraie vie. Et d'autres lisent ce même verset, et ils partent dans un pays lointain, sur un radeau, dans une rivière, rencontrer un peuple dont ils ne parlent même pas la langue. Et le peuple au complet accepte Jésus comme sauveur. Si tu as de la foi, tu déplaceras les montagnes. Aimerez-vous déplacer les montagnes? Application ce matin de ce message à nos vies. Abraham, Moïse, Esther, Paul ont agi par la foi. Je te dis, oui, mais Jerry, je ne suis pas de leur trempe. Je ne suis pas de leur trempe. Vous entendez des témoignages autour de vous. Billy Graham, Hudson Taylor, Corrie Ten Boom, David Wilkerson. Et tu dis, oui, mais Jerry, je ne suis pas de leur trempe. C'est correct. C'est correct. Jerry, c'est des gens spirituels, des géants spirituels. Et cette foi-là est hors de ma portée. C'est correct. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes de la même trempe que cette femme qui saignait? Vous êtes sûrement de sa trempe. Comme moi. Et vous pouvez certainement imiter son exemple. Dans toute cette bousculade d'attouchement humain, Jésus savait qu'il y avait une petite touchée, toute légère, qui était différente de toutes les autres touches, une touche de foi. Et Jésus n'était pas frustré. Il n'a pas dit, « Hey, qui a osé me toucher? » Il n'a pas dit à cette femme, « Qu'est-ce que tu fais, femme? » Il a dit, « ma fille, ta foi t'a sauvée. » Dans quelle situation de vie précise, présentement, est-ce que Dieu te demande d'agir par la foi, par une foi vivante et agissante? Demande au Saint-Esprit maintenant dans le silence et ensuite fais-le. Hébreux 11:6, les amis, c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Or, sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est tellement vivante, tellement d'actualité, écrite il y a 2000 ans et vivante pour nous aujourd'hui. Merci Seigneur de ce que parmi tous les incidents, tous les événements qui ont lieu pendant ton ministère terrestre, ton Saint-Esprit a choisi d'inclure l'histoire de cette femme pour nous. Pour nous. Pour nous servir d'encouragement et pour nous enseigner comment activer notre foi. Et comment on doit venir chaque jour à toi, Jésus. En intimité, en proximité. Pour te demander d'agir dans nos vies. Je te prie pour les frères et les sœurs de l'Église Gatineau, ici présents, que ton Saint-Esprit puisse les fortifier, les aider à activer leur foi d'une façon concrète dans toi, le Dieu Tout-Puissant. Et je te prie pour l'Église collectivement, Seigneur, que tu puisses utiliser cette Église dans cette région comme une lumière, comme une voie pour l'Évangile de sauver des âmes et avancer le royaume de Dieu. Merci. Merci que tu nous aimes intimement avec cet même amour que tu as aimé cette femme. Que tu vas avoir compassion de nous, entendre nos requêtes et agir par ta puissance. Merci Jésus. Amen.